Les Nions de la SF.
Alors les jeunes, maintenant que nous sommes dimanche, est-ce qu'on peut tirer un premier bilan de ces Imaginales 2007?
C'est horrible, je me sens déprimé. J'ai acheté trop de livres. Jamais je ne pourrai les lire avant la fin de l'année. C'est ça le problème en fait. Je vais devoir changer mon rythme de vie, arrêter de manger, arrêter de travailler, arrêter de boire et lire tous les jours du matin au soir. Ouais, dormir aussi, faudrait que j'arrête, ouais. Dormir surtout, c'est une perte de temps inutile, quoi. Là, dans mon sachet, j'en ai quoi? J'en ai 7. Et dans mon sac à l'hôtel, je pense que j'en ai encore 5 ou 6 fois plus.
Et toi, Anouska?
Moi, je vais avoir de gros problèmes avec mon banquier prochainement, je crois. Car non seulement on achète des livres, mais en plus on se cantonne pas aux poches. Évidemment, parce qu'il y en a qui ne sont pas sortis en poche et qui ne sortiront probablement jamais. Et on les voit, on a envie de les acheter, c'est un peu cher. Et voilà, ils s'affreux. Et voilà, après, on écoute des tables rondes, on entend des écrivains qui parlent, qui sont intéressants. Du coup, on va leur parler. Et après, on achète leurs livres. Et on part aussi avec un bon stock, moins que Baptiste. J'en ai pas les moyens, mais je repars quand même avec un bon stock cette année et je vais non plus pas avoir le temps de lire.
Il faut militer pour la trêve de l'écriture. La trêve de l'écriture, il faut l'appliquer tout de suite, que les écrivains arrêtent pendant un an ou deux, qu'on puisse rattraper le retard qu'on a, qu'on puisse lire tout ce qu'on a acheté depuis des années. D'ailleurs, eux aussi ont le même problème. Il faut reste que des écrivains nous l'ont avoué. Ils ne peuvent pas accomplir le travail d'écriture en même temps de leur passant de lecture. Il faut une grande trêve, qu'on puisse tous repartir plus tard avec tous ces nouveaux livres qu'on aura bien lus. Et...
Tu sais qu'on va se mettre à dos les éditeurs avec des trucs pareils.
Ouais, mais les éditeurs, mais faut qu'ils arrêtent de vouloir publier tous les jours de nouvelles œuvres intéressantes. En plus, les écrivains, ils sont trop sympas. Tu avais raison.
Si encore c'était pas intéressant et que les écrivains étaient complètement antipathiques, etc., ça irait, mais non.
Ils savent donner envie. En plus, il y a des cocktails gratuits, alors en plus, on boit de l'alcool et puis on comprend plus rien après. Forcément, on achète. Il faut arrêter le squat au cocktail.
Je pense que c'est le but de leur cocktail où on peut boire un verre ou deux d'alcool bien, tu sais. Baptiste en a fait expérience.
En fait, les éditeurs, c'est presque des dealers. Ils ont les mêmes méthodes. Chez le client, elle le rend dépendant et accro.
On est une population à risque quand même.
Vous avez entendu l'appel ému de Baptiste et Anouchka. Nous, les Lyonnes, nous les rejoignons de cet appel, justement, de la trêve des écrivains. Baptiste et Anouchka, que vous devriez déjà connaître si vous êtes des vrais fans des Lyonnes de la SF, parce qu'ils ont été déjà protagonistes d'autres épisodes que nous avons faits. Baptiste aux Utopiales, Anouchka aux Imaginales de l'année dernière. Et alors, Flo, toi aussi, t'as eu le même problème?
Bah oui, pourtant, j'étais très décidée. Je m'étais dit en arrivant, je n'achète rien. Et puis voilà.
T'as pas fait comme ma copine qui, à la Worldcon à Glasgow, avait acheté exprès un sac pour les bouquins qu'elle aurait pas acheté?
Non, mais on prévoit toujours un sac un peu plus grand que nécessaire. Parce qu'on se dit bien qu'au retour, le sac va être plus lourd. Tu discutes avec les uns, les autres. Comme une idiote, je fais des interviews d'auteurs et j'achète leurs livres. Donc, voilà, à bas les Lyonnes de la SF, c'est une cause supplémentaire d'achat.
C'est scandaleux. Bon, à part ça, t'as quand même travaillé.
Bah, j'ai fait que travailler, tu rigoles toi?
Et t'as travaillé sur l'actualité?
Au hasard de mes déambulations entre les stands, j'ai découvert notamment que ActuSF s'était lancé dans l'édition.
Oh!
Et oui, et donc ça m'a permis d'aborder Jérôme Vincent, à qui j'ai demandé si c'était une idée qui avait germé après ou avant la fondation du site.
Donc en fait, on découvre que... t'es pas aux Imaginales que pour travailler, mais aussi pour draguer les hommes.
En fait, l'idée était dès le départ. Avant ActuSF, on a fait la 85e dimension, qui était un fanzine. On faisait des concours de nouvelles, on recevait beaucoup de textes d'auteurs amateurs. Ça allait jusqu'à 250 selon les sessions, donc on savait qu'il y avait des bons textes. Et aujourd'hui, les moyens techniques nous permettent de sortir des anthologies à 200, 300, 400 exemplaires, donc des petits tirages qui coûtaient pas trop cher. Donc, dès qu'on a monté ActuSF, sachant qu'on avait des textes sous coude, on s'est dit on va faire des anthologies. La seule différence, c'est que on pensait en faire un, deux par an, et puis bah, plus ça va, plus on trouve des idées d'anthologie, des idées de recueil, des idées de guide, et donc on développe notre secteur édition. Alors on fait, il y a deux axes sur AQSF, des anthologies avec des auteurs inconnus, donc environ une par an, il y a eu le labyrinthe, il y a les ogres, on va lancer bientôt un nouvel appel à texte, donc ça c'est un appel ouvert à tout le monde, on reçoit les nouvelles, on sélectionne, on retravaille avec les gens, et donc ça nous donne des petites anthologies avec 5-6 textes. Et puis il y a un deuxième axe qui est plus axé recueil de nouvelles, donc ou grosse novella d'une centaine de pages, un petit format de 13 par 18, où là on va publier soit plusieurs nouvelles d'un même auteur, soit une grosse novella d'un seul auteur. Donc c'est ce qui s'est passé par exemple avec Roland Wagner. On a fait HPL qui était sa nouvelle sur Lovecraft, et on vient de sortir Celui qui bat avec Igloo Glout de Roland, qui est une grosse novella, ce qui permet en fait de faire des petits livres à 5-6 euros, des petits recueils. Où on, là, c'est vraiment la prime à la découverte, où pour pas cher, on va se frotter à un auteur et à son style. Et le troisième, c'est un axe guide. Donc on a sorti l'année dernière un guide de la SF étrangère. Un petit guide de poche, pas prise de tête, très ludique pour ceux qui veulent découvrir. Et on est en train de finir le guide de la fantasy étrangère.
Alors donc, parlons un petit peu des imaginales. Ça se déroule à Épinal chaque année au mois de mai, dans un parc au bord de la Moselle. Donc c'est arboré, c'est super agréable. Et puis généralement en mai il fait beau. Il y a plein de restos vachement sympas à Épinal, donc ça vaut le coup aussi. Par rapport aux Utopiales, qui est quand même le must, mais dans lequel il est difficile d'aborder les gens parce que ben, il y a beaucoup de monde. Il faut en fait avoir une amie pourvue d'une carte de presse pour pouvoir rentrer au restaurant et pouvoir parler aux invités, quoi.
Tu penses à quelqu'un en particulier ?
Oui, une amie proche qui a une carte de presse et qui est italienne.
Ok, qui doit être très sympa d'ailleurs.
À Épinal, c'est beaucoup plus convivial, il y a moins d'affluence. Donc ça
déjà, c'est gratuit.
C'est gratuit. On peut bien plus facilement parler aux participants. D'ailleurs, à ce propos, j'ai rencontré Marc et Lucas d'Utopod.
Oh !
www.utopod.com. Ce festival se déroule sous l'égide de Bragelonne. Donc, on a pas mal d'auteurs Bragelonne, mais on n'a pas que des auteurs Bragelonne.
Mais en fait, pour être un festival mineur, quand même, il y a des grands noms qui participent.
Oui, cette année, il y avait Terry Brooks. Il devait y avoir Peter Hamilton, mais malheureusement, il n'a pas pu venir.
Et toi, t'es restée quand même.
Ouais, attends, je te dis pas. Je suis arrivée le jeudi à 2h, je prends le programme, je regarde le programme, pas de Peter Hamilton. Je me suis dit, est-ce que je reste ?
Oui, merci Baptiste et Anouchka pour avoir retenu notre flow.
Non, puis il y avait plein de gens chouettes, hein, malgré tout.
Et il y a aussi, donc, des nouveaux auteurs.
Bah oui, nous avons une exclusivité. Jean-Claude Dugnac.
Un nouveau auteur pas connu.
J'espère que ceux qui nous écoutent connaissent Jean-Claude Dugnac. Sinon, faut vous inquiéter, les gars. Faut vous y mettre. Enfin, salut Jean-Claude, ceux qui nous écoutent. Il est au boulot, là, il nous écoute avec son casque et il prend l'air sérieux.
Salut.
Il y a Adriana Lorusso dont je publie le premier roman le mois prochain. Et ça c'est un bonheur, je n'en reviens pas encore. Elle, tu devrais vraiment l'interviewer, la prendre un petit peu. Parce que son bouquin sort le mois prochain et à mon avis, ça va être un buzz énorme. Ouais, c'est un énorme roman et il y en a un deuxième derrière que j'ai pris aussi. Et à mon avis, c'est une des voies de la science-fiction francophone qui vient de débarquer. Et surveille-la, il vaut le coup.
Ouais. Ce premier roman s'intitule Tashima et le deuxième ne sera pas à proprement parler une suite mais se situera dans le même univers. C'est donc un roman de SF puisque Jean-Claude Dugnac est le directeur de collection SF chez Bragelonne.
Oh !
Bragelonne qui d'ailleurs vient d'ouvrir également une collection fantastique. Donc Bragelonne ne
donc
sera plus...
Donc la trêve des écrivains, là on n'en parle pas.
Hein. On est mal, ouais.
Adriana Lorusso.
C'est beau en italien.
Maria, tu te présentes un petit peu ?
Ben voilà, je suis italienne, j'habite en Belgique depuis 30 ans, donc je considère que je reste italienne, je suis quand même un petit peu belge, et j'ai écrit en italien, et puis une amie me l'a traduit. et je l'ai présenté chez Bragelonne et ça a été accepté. Je vais tout d'abord présenter en Italie et tout le monde a refusé de le lire.
Ah oui,
tiens. C'est pas qu'ils l'ont lu, ils ont dit non, ça me plaît pas parce que non, on n'a pas envie, on n'a pas le temps. Et j'ai pensé qu'en France, les éditeurs étaient moins frileux. Ils étaient disposés à regarder quelqu'un de nouveau, quitte à dire « j'aime pas pour cette et cette raison ». C'est tout ce que j'espérais en fait. Quand Jean-Claude m'a téléphoné pour me dire qu'il aimait bien, après 10 jours qu'il avait reçu, je savais plus quoi faire, j'arrivais pas à rester debout, je veux une chaise.
Et est-ce que tu peux nous parler un peu justement de ce roman ?
C'est un roman qui se passe dans un monde qui est resté isolé pendant tout un temps et qui a développé donc une culture assez particulière. Et c'est l'interaction avec cette culture et ses a priori et ses préjugés avec un autre monde qui serait en fait l'évolution d'une autre avec ses a priori et ses préjugés. C'est ce que je préfère en SF, en fait, parce que les batailles spatiales, c'est... Bon, il y en a des magnifiques, comme chez Honor Harrington, mais je ne serais pas capable. Et puis, on en a vu beaucoup, et puis, voilà. J'adore la science-fiction, littéralement. Je trouve que quand j'ai envie de m'évader, je n'ai pas envie de prendre un livre qui raconte tous les malheurs, qui sont exactement identiques à ce que les gens me racontent tous les jours. Dans la science-fiction, ça se passe dans un autre univers, ça ne nous touche pas vraiment, en fait, c'est pas vrai, mais on peut partir de cette base-là, et puis voilà. Et c'est né comme ça, tout seul, ce roman.
Oui, ça a été évident, le jour où tu as écrit, c'était évident de faire ça.
Oui, c'est sorti.
Et quels sont tes auteurs références ?
Oh, ben, ça c'est difficile. J'ai les grands classiques, j'ai adoré Ange avec Ayesha. J'adore Ursula Le Guin qui est pour moi un grand maître, je ne peux pas dire une grande maîtresse, mais enfin j'aimerais bien utiliser les noms féminins, mais bon, dans les cas en question on ne peut pas. Et sinon j'aime les auteurs féminins en général, bien qu'il y ait énormément d'auteurs masculins qui sont très bien. Alors j'ai envie de leur dire qu'ils ont une sensibilité féminine, mais ils n'apprécient pas.
Et pourtant c'est vrai, hein, pour beaucoup. C'est quand même une littérature qui ouvre sur l'autre, hein, dont l'autre genre.
Donc pour rester sur l'actualité, il y a des choses qui se passent en ce moment à Galaxy apparemment.
Qui se passent enfin, veux-tu dire, parce que le dernier numéro datait quand même de printemps 2006.
Je sens un certain...
Si on manque de galaxies.
Il ne faut pas énerver une lionne. Maintenant, il y a un changement en train de se produire à la tête de la rédaction.
Ça se fera à partir de la fin de l'année. Et donc, j'ai pu discuter un moment avec Olivier Noël, nouveau rédacteur en chef, donc, qui m'a raconté comment il était entré dans la revue, etc.
Oh.
Comment est-ce que tu es rentré dans la revue, ouais.
Alors je ne me souviens plus quand exactement, c'était il y a 5-6 ans. C'est Denis Guillot qui m'avait contacté par mail à la suite de plusieurs critiques que j'avais écrites sur le site Mauvais Genre en Bibliothèque, qui à l'époque était assez connu, surtout dans le polar, mais un petit peu la science-fiction. Donc il m'avait contacté, il m'avait dit « Ah, il faudrait que tu rentres en contact avec Stéphanie Nico, Stéphane à l'époque ». Donc que j'ai rencontré, ça s'est bien passé, présenté à Alain Jardy qui à l'époque dirigeait la rubrique critique. Donc je suis rentré d'abord comme critique, j'ai fait une critique dans un numéro, puis quelques-unes dans les suivants, etc. Donc voilà, ça c'était mon premier contact avec la revue. Ensuite, Alain Jardy a quitté la revue, Stéphanie Nico m'a alors proposé de reprendre la rubrique lecture. Donc ce que je fais maintenant depuis, c'est pareil, je n'ai pas trop la notion du temps, mais depuis 2 ou 3 ans, donc avec une bonne équipe donc qui se renouvelle. Stéphanie m'a ensuite proposé, parce que je pense qu'elle commençait déjà à songer à la relève, donc elle m'avait proposé d'être rédacteur en chef adjoint, bon, ce qui en soi n'est pas grand-chose, mais du coup j'ai rentré un petit peu plus dans les petits détails de la revue, même si je ne maîtrise pas tous les éléments. Et c'est pour ça que bon, quand là, elle m'a fait part de son désir de quitter définitivement la revue, en tout cas dans la fonction de rédacteur ou de rédactrice en chef, je lui ai demandé de m'accompagner quand même pendant quelques mois. Donc il va y avoir le numéro de septembre, en fait, on fera vraiment tous les deux, avec un éditorial signé par tous les deux. Et à partir du numéro de décembre, même s'il y a déjà des textes calés, des choses que Stéphanie a déjà mises en place, je vais devenir vraiment rédacteur en chef officiellement et à plein temps, j'ai un boulot à côté, mais à partir de décembre.
Ouais, c'est une sacrée aventure,
oui,
parce
oui.
Que je veux pas te mettre la pression, mais c'est vrai qu'en tant que lecteur, on attend beaucoup, quoi. Surtout que là, bon, on est un petit peu en manque en ce moment.
Disons que moi, c'est un petit peu un rêve d'ado de créer une revue. Bon, moi, je viens de dire la même chose, confrère d'ActuSF, mais c'est vrai qu'on est au collège, à l'école, on fait tous des petits journaux entre nous, comme ça. Et alors, l'arrivée d'Internet avait permis de faire des choses comme ça, sans, un peu informellement. Donc, j'ai créé un blog, etc. C'est très intéressant, j'ai envie de le continuer. Mais c'est vrai que là, c'est un petit rêve qui se concrétise. Alors, c'est un honneur aussi, parce que bon, la revue Galaxy, moi, je ne l'ai pas découverte dès le début. Je l'ai découvert en cours de route, mais c'est une revue de référence qui a fait du bon boulot. Donc, c'est un honneur. Et puis, je suis conscient de la pression qu'il y a sur moi et sur toute l'équipe. Maintenant, il n'y a pas péril dans la demeure. Hein. Il y a eu quelques remous récemment, effectivement. Pendant 6 mois, il n'y a pas eu de numéro. Donc là, il y a le numéro 42 quand même qui vient de sortir. La revue existe. Hein. C'est pas une légende. Voilà, avec un dossier Alain Damasio. Je pense qu'en plus, c'est un numéro assez coup de poing, avec une tribune libre de Léa Silol qui fait mal, une interview d'Alain Damasio où il ne mâche pas ses mots. Enfin, je pense que c'est un numéro qui vaut le coup. En plus, la qualité de la nouvelle d'Alain Damasio est au rendez-vous. Et puis, donc, d'ici un mois et demi, je ne peux pas vous donner de date exacte, mais très bientôt, il y aura un numéro consacré à Joël Vintrebert. Et à peu près dans le même temps, un numéro spécial pour les abonnés, donc qui ne sera pas distribué en librairie, consacré à Jacques Boireau, donc un auteur que peu de gens connaissent, qui a déjà publié dans Galaxy et dans d'autres revues, un auteur que Stéphanie Nico avait envie de promouvoir un petit peu. Voilà. Et puis ensuite, on va reprendre un rythme régulier, enfin, j'y tiens, et on fait en sorte que tout se passe bien.
Donc il y a des choses qui repartent, il y a des gens qui partent, par contre, qui partent avec de nouvelles aventures, comme notre amie Charline.
Ah, Charline. Elle dessine toujours aussi bien, encore mieux même.
Elle fait même des choses. Le numéro 74 de Lunatique porte une couverture avec un dessin de Charline.
Elle participe à un maximum de conventions, comme elle dit, en nomade, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de stand à elle, mais elle trouve toujours un coin de table pour exposer ses œuvres. Elle est en train de travailler, de mettre en place un site internet. Dès que ce sera finalisé, on vous mettra au courant. Et voilà, et j'étais très contente de la voir, et je lui ai demandé un petit peu, depuis le temps, ce qu'elle avait fait, quoi.
Le temps, c'était...
Billing.
Billing.
Moi, je veux savoir ce qui s'est passé depuis la convention française de science-fiction.
Alors, ce qui s'est passé, c'est que en allant à d'autres conventions, ça m'a permis de rencontrer vraiment plein de personnes très intéressantes, avoir un énorme apport au niveau technique, graphique, dessin, qui fait que ça me permet moi d'évoluer dans ce que je fais, de me remettre en question pour des petites choses.
Et donc tu as fait plusieurs conventions, je crois savoir que tu as rencontré des grands sur le plan international, notamment un.
Oui, c'était vraiment des coups de chance, je dirais, par rapport à ça. C'est vrai que à Mons, il y a quelques temps, il y avait Alani qui était, on va dire, overbooké, parce qu'il y avait vraiment des centaines de personnes qui faisaient la queue pour le voir donc au festival Troll et Légendes. Bon, j'ai pu participer en nomade encore, hein, n'est-ce pas? Mais j'ai pu parler avec lui vraiment toute fin de convention. Bon, c'est une personne adorable parce qu'il essaye vraiment au maximum de parler avec les gens. Il ne sait pas dire non, il veut vraiment toujours faire plaisir et c'est vraiment un bonheur que d'échanger avec lui et puis avoir tous ses conseils.
Et créer ton propre monde puisqu'il y a une maquette en route et tout ça prend forme, quoi.
Oui, c'est vrai que mon petit univers, je suis en train de le mettre en route. J'ai croisé de nouvelles petites créatures comme ça. Hein. Et c'est vrai que c'est vraiment de leur donner une identité propre. Enfin, ce que j'aime bien essayer de faire, c'est vraiment essayer de les humaniser au travers d'illustrations, de décors, de physionomies aussi, qui peuvent paraître un peu décalées. Bizarre. Ce que j'essaie de faire aussi, c'est essayer de trouver la beauté dans la laideur. Parce que je trouve que maintenant, on est dans une société qui est très stéréotypée dans beaucoup de choses. Il y a vraiment une esthétique qui devient standardisée. Il y a toujours des choses à faire à travers l'imaginaire.
Pierre Gévart écrit « Les dessins de Charline n'illustrent pas. Ils racontent, ils tissent des mondes, ils donnent envie justement d'y entrer, d'en scruter les détails, de s'y attarder, de les déguster et pourquoi pas de les illustrer par un texte. »
J'ai lu cette dédicace que Pierre a fait sur la maquette de livre de Charline parce que je trouve qu'elle reflète exactement ce que je ressens quand je regarde ses dessins.
Eh bien alors, terminons cet épisode avec les mots toujours de Charline. On a commencé par un appel, celui de la trêve des écrivains. On termine par un autre appel, et donc la parole à Charline.
Je tenais à dire qu'il y a, bon, c'est vrai qu'il y a toujours aussi les imaginaires qui se tiennent près de Brocéliande, donc où il y a toujours un rassemblement de personnages incroyables. Et également, il y a tout un univers qui s'est tissé au travers de Brocéliande avec ses mythes et ses légendes. Et ce que j'ai appris récemment, et c'est vrai que ce qui m'a fait un peu mal au cœur, je voulais un petit peu en parler quand même, simplement parce que je trouve que c'est quelque chose d'important dont justement les gens devraient être peut-être un peu mieux au courant. Bon, il y a un stockage de déchets qui s'était fait il y a déjà quelques temps, près de la forêt, vraiment lisière. Et là, ça s'est agrandi. Il y a des... On va dire, la forêt, bon, est protégée, mais ça n'empêche pas qu'il y a eu un article qui est paru sur Le Figaro, où il y avait une personne qui avait vraiment enquêté là-dessus. Et il disait que la forêt, ça n'allait pas évidemment lui faire du bien, puisqu'il allait avoir sans doute des, on va dire, des petites traces de méthane, des choses comme ça au niveau des arbres. Et j'en profitais un petit peu pour que les gens peut-être soient un petit peu au courant, qu'on sache un peu ce qui se passe. Donc voilà, c'était tout. Je le dis un peu comme ça, comme un petit cri dans l'eau peut-être, mais si ça peut faire des vagues, on sait jamais.
Nous écrire en passant par notre page internet lyonsf.podomatique.com.